Méditation. Pensons à la succession des saisons, des mois et des jours, de chaque instant, et aux changements qui affectent chaque aspect de la vie des êtres. Pensons à la mort, enfin, qui est inéluctable, mais dont l'heure est incertaine. Qui sait combien de temps il me reste à vivre? Même si je vis jusqu'à un âge avancé, la fin de ma vie passera aussi rapidement que le début. Il importe donc que je considère, au plus profond de moi-même, ce qui compte vraiment dans l'existence, et que j'utilise le temps qu'il me reste à vivre de la façon la plus fructueuse, pour mon bien et celui des autres. Si j'aspire à méditer et à développer mes qualités intérieures, il n'est jamais trop tôt pour m'y consacrer. Source d'inspiration par Nagarjuna. Si cette vie que bat le vent de mille mots est plus fragile encore qu'une bulle sur l'eau, il est miraculeux, après avoir dormi, inspirant, expirant, de s'éveiller dispo. Source d'inspiration par Gampopa. Au départ, il faut être poursuivi par la peur de la mort comme un cerf qui s'échappe d'un piège. À mi-chemin, il ne faut rien avoir à regretter, comme le paysan qui a travaillé son champ avec soin. À la fin, il faut être heureux comme quelqu'un qui a accompli une grande tâche. Les comportements qu'il faut adopter et ceux qu'il faut éviter. Comment tirer le meilleur parti de cette vie humaine, précieuse mais fragile, qui peut s'interrompre à tout instant? Lorsque l'on veut réaliser un projet ou entreprendre une activité, quelle qu'elle soit, avec l'assurance de la mener à bien, il faut être sûr de procéder de la bonne manière. Certaines choses sont à faire et d'autres à éviter. Le marin en haute mer, le guide de montagne ou l'artisan consciencieux savent qu'on n'obtient rien de bon en obéissant aux caprices du moment. C'est d'autant plus vrai si le but que l'on poursuit, c'est se libérer de la souffrance. Mais comment savoir quelle est la bonne manière de procéder? Il n'est pas question ici de s'appuyer sur un dogme pour discriminer entre le bien et le mal, ou de se conformer à des conventions préétablies. Il s'agit simplement de respecter avec lucidité les mécanismes du bonheur et de la souffrance, tels qu'on peut les observer par soi-même, si l'on est suffisamment attentif. Tant que l'on garde sa main dans le feu, il est vain d'espérer échapper à la brûlure. Par ailleurs, vouloir à tout prix être certain des conséquences de nos choix n'est pas tant s'en faut une attitude judicieuse. S'il est difficile de prévoir toutes les conséquences de nos actes, quoi que nous fassions et en toutes circonstances, il nous est au moins possible d'examiner notre motivation et de nous assurer que notre but est non seulement notre bien véritable, mais aussi et surtout celui d'autrui. Méditation. Recueillons-nous au plus profond de nous-mêmes et reconnaissons que nous désirons être affranchis de la souffrance et trouver le bonheur authentique. prenons sincèrement conscience du fait que tous les êtres vivants souhaitent la même chose. Considérons les enchaînements de causes et des conséquences qui font que certains types de pensées, de paroles et d'actions, ceux par exemple qui sont inspirés par la haine, l'avidité, la jalousie et l'arrogance, engendrent la souffrance et que d'autres qui procèdent de la bienveillance et de la sagesse mènent à une satisfaction profonde. Tirons-en les conclusions qui s'imposent concernant ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et soyons déterminés à les mettre en pratique. Source d'inspiration par Shantideva. Tout en voulant lui échapper, nous nous jetons dans la souffrance. Nous aspirons au bonheur, mais par ignorance, le détruisons comme s'il était notre ennemi. L'insatisfaction inhérente au monde ordinaire. Nous avons vu précédemment que notre situation est loin d'être satisfaisante, et qu'une transformation est non seulement désirable, mais possible. Nous pouvons certes nous distraire de multiples façons pour oublier les aspects insatisfaisants de l'existence, ou les masquer sous toutes sortes de déguisements attrayants, activités incessantes, flots d'expériences sensorielles, poursuite de la richesse, du pouvoir et de la renommée. Mais la réalité finira toujours par refaire surface, avec son lot de souffrances. Il vaut donc mieux regarder cette réalité en face et se décider à déraciner les véritables causes du malheur, tout en cultivant celles du bonheur authentique. Méditation. Pendant quelques instants, prenons conscience de notre potentiel de changement. Quelle que soit notre situation actuelle, il nous est toujours possible d'évoluer, de nous transformer. Nous pouvons au moins modifier notre façon de percevoir les choses et graduellement notre manière d'être. Soyons, au plus profond de nous-mêmes, déterminés à nous libérer de notre situation présente et cultivons l'enthousiasme et la persévérance qui nous permettront de développer nos qualités latentes. Source d'inspiration par Dilgo Khyentse Rinpoche. En courant toute sa vie après des buts mondains, le plaisir, le gain, les louanges, la renommée, etc., on gaspille son temps, tel un pêcheur qui jetterait ses filets dans une rivière à sec. Ne l'oubliez pas, et veillez à ce que votre vie ne s'épuise pas en vaines poursuites. Méditation sur la pleine conscience. Bien souvent, notre esprit est emporté par une multitude d'enchaînements de pensées où se mêlent réminiscences et projections dans le futur. Nous sommes distraits, dispersés, confus et de ce fait déconnectés de la réalité la plus immédiate et la plus proche de nous. À peine percevons-nous ce qui se passe à l'instant même, le monde qui nous entoure, nos sensations, la façon dont nos pensées s'enchaînent et surtout la conscience omniprésente que nos cogitations obscurcissent. Nos automatismes de pensée sont aux antipodes de la pleine conscience. Celle-ci consiste à être parfaitement éveillée à tout ce qui surgit en soi et autour de soi, d'un instant à l'autre, à tout ce que nous voyons, entendons, ressentons ou pensons. À cela s'ajoute une compréhension de la nature, de ce que nous percevons, libre des déformations que provoquent nos attirances et nos rejets. La pleine conscience possède également une composante éthique qui permet de discerner s'il est bénéfique ou non d'entretenir tel ou tel état d'esprit et de poursuivre ce que l'on fait à l'instant présent. Le passé n'est plus. L'avenir n'a pas encore surgi. Et le présent, paradoxalement, est à la fois insaisissable, puisqu'il ne s'immobilise jamais, et immuable, comme l'écrivait un physicien célèbre, le présent est la seule chose qui n'ait pas de fin. Cultiver la pleine conscience du moment présent ne signifie pas que l'on ne doit pas tenir compte des leçons du passé, ni faire des projets pour l'avenir, mais que l'on doit vivre lucidement l'expérience actuelle qui les englobe. Première méditation. Observant ce qui se présente à notre conscience, sans lui surimposer quoi que ce soit, sans nous laisser attirer ni repousser. Contemplons ce qui est présent devant nous, une fleur par exemple. Écoutons attentivement les bruits proches ou lointains. Humons les parfums et les odeurs. Sentons la texture de ce que nous touchons. Enregistrons nos diverses sensations en percevant clairement ce qui les caractérise. Soyons entièrement présents à ce que nous faisons. Que nous marchions, soyons assis, en train d'écrire, de faire la vaisselle, ou de boire une tasse de thé. Il n'y a plus de tâches plaisantes ou déplaisantes, car la pleine conscience ne dépend pas de ce que l'on fait, mais de la manière dont on le fait, à savoir avec une présence d'esprit claire et paisible, attentive et émerveillée par la qualité du moment présent, en se gardant d'ajouter à la réalité nos constructions mentales. Lorsque nous effectuons cette pratique, nous cessons d'osciller interminablement entre l'attirance et le rejet. Nous sommes simplement attentifs, lucides, conscients de chaque perception ou sensation, de chaque pensée qui surgit puis disparaît. Ressentons la fraîcheur de ce moment présent. N'engendre-t-elle pas en nous une expérience vaste, lumineuse et sereine? Source d'inspiration par Bante Enepola Gunaratna. Lorsque vous entendez un son pendant la méditation, portez simplement votre attention sur l'expérience d'entendre. Cela, et rien que cela. Pas de cinéma mental, pas de concept, pas de dialogue intérieur sur le sujet. Simplement des bruits. La réalité d'une élégance simple et sans fioritures. Lorsque vous entendrez un son, soyez attentif au processus d'entendre. Tout le reste est du bavardage surajouté. Laissez-le tomber. Seconde Méditation. La marche attentive. Voici une méthode pratiquée par nombre de méditants pour cultiver la pleine conscience. Elle consiste à marcher en restant totalement concentré sur chaque pas. Il faut marcher assez lentement pour que nous restions pleinement conscients de nos moindres mouvements, mais pas au point de perdre l'équilibre. À chaque pas, prenons conscience de notre équilibre, de la façon dont nous posons le talon au sol, puis progressivement l'ensemble du pied, et comment l'autre pied décolle du sol pour aller se poser un peu plus loin. Dirigeons notre regard vers le bas, à quelques pas devant nous. Et gardons pour principal objet de concentration la marche elle-même. Si nous ne disposons pas de beaucoup d'espace, allons et venons, en marquant une pause de quelques instants chaque fois que nous faisons demi-tour, tout en demeurant dans la pleine conscience de cette suspension du mouvement. Nous pouvons aussi combiner la marche attentive avec la pleine conscience de tout ce que nous rencontrons, voyons, entendons et ressentons, comme il est expliqué ci-dessous. Source d'inspiration par Thich Nhat Hanh. Marcher, pour le simple plaisir de marcher, librement et avec assurance, sans se presser. On est présent à chaque pas que l'on effectue. Si l'on veut parler, on s'arrête de marcher, et on accorde toute son attention à la personne qui se trouve devant soi, au fait de parler et d'écouter. Arrêtons-nous. Regardons autour de nous et voyons comme la vie est belle, les arbres, les nuages blancs et l'infinité du ciel. Écoutez les oiseaux. Goûtez la légèreté de la brise. Marchons comme des êtres libres et sentons nos pas s'alléger au fur et à mesure que nous marchons. Apprécions chaque pas que nous faisons. Le calme intérieur. La méditation a pour but de libérer l'esprit de l'ignorance et de la souffrance. Comment s'y prendre ? Là encore, le simple souhait d'y parvenir ne suffit pas. Il faut appliquer une méthode systématique qui permet de débarrasser l'esprit des voiles qui l'obscurcissent. Comme c'est l'esprit lui-même qui doit se charger de cette tâche, assurons-nous d'abord qu'il en est capable. S'il ne tient pas en place un seul instant, comment pourrait-il se libérer de son ignorance ? L'esprit ressemble à un singe entravé par de nombreux liens, qui ne cesserait de sauter dans tous les sens pour se détacher. Il gesticule tant et si bien qu'il empêche quiconque, y compris lui-même, de défaire un seul nœud. Il faut commencer par le pacifier et le rendre attentif. Calmer le singe ne signifie pas l'immobiliser en le gardant enchaîné. Le but est de profiter de ce répit pour lui rendre la liberté. On utilisera pareillement la maîtrise qui accompagne l'esprit lorsqu'il est calme, attentif, clair et maniable pour le libérer des liens créés par les pensées vagabondes, les émotions conflictuelles et la confusion. Les automatismes de pensée, entretenus par nos tendances et nos habitudes, de même que la distraction et les fabrications conceptuelles qui déforment la réalité, sont autant d'obstacles à l'atteinte de ce but. Il faut donc remédier à ces conditions défavorables. Maîtriser l'esprit ne signifie pas lui imposer de nouvelles contraintes qui le rendraient encore plus étriqué et tendu. C'est au contraire l'affranchir de l'emprise des conditionnements mentaux et des conflits intérieurs entretenus par les pensées et les émotions. Pour reconnaître la nature véritable de l'esprit, il faut par conséquent ôter les voiles engendrés par les automatismes de pensée. Comment s'y prend-on? Supposons que nous ayons fait tomber une clé au fond d'un étang. Si nous prenons un bâton et remuons la vase, nous rendrons l'eau complètement opaque et nous n'aurons aucune chance de retrouver la clé. Nous devons d'abord laisser l'eau se décanter jusqu'à ce qu'elle devienne limpide. Après quoi, il sera plus facile de discerner la clé et de la repêcher. De même, il faut commencer par laisser l'esprit devenir clair, calme et attentif. Ensuite, il sera possible d'utiliser ces nouvelles qualités pour en cultiver d'autres, comme l'amour altruiste, la compassion, et pour acquérir une vision profonde de la nature de l'esprit. Pour atteindre ce but, toutes les écoles du bouddhisme enseignent deux types de méditation fondamentales et complémentaires. Le calme mental, appelé shamatha en sanskrit, et la vision pénétrante, vipassana, dont nous parlerons plus tard. Shamatha est l'état d'esprit apaisé, clair et parfaitement concentré sur son objet. Vipassana est la vision pénétrante de la nature de l'esprit et des phénomènes, à laquelle on parvient en analysant minutieusement la conscience, puis en ayant recours à la pratique contemplative, à l'expérience intérieure. Vipassana permet de démasquer les illusions et par conséquent de ne plus être victime des émotions perturbatrices. En résumé, Shamatha prépare le terrain en faisant de l'esprit un outil maniable, efficace et précis. Tandis que Vipassana libère l'esprit du joug des afflictions mentales et des voiles de l'ignorance. Notre esprit est la plupart du temps instable, capricieux, désordonné, ballotté entre l'espoir et la crainte, égocentrique, hésitant, fragmenté, confus, parfois même absent, affaibli par les contradictions internes et le sentiment d'insécurité. De plus, il est rebelle à tout entraînement et se trouve constamment occupé par son bavardage intérieur qui maintient un bruit de fond dont nous sommes à peine conscients. Ce dysfonctionnement n'est rien d'autre qu'une production de l'esprit lui-même. Il est donc logique qu'il soit également lui-même en mesure d'y remédier. Tel est le but de la pratique de shamatha et de vipassana. En bref, il s'agit de passer graduellement d'un état d'esprit soumis aux conditions défavorables que nous venons de décrire à un autre dans lequel prévalent l'attention stable, la paix intérieure, la capacité de gérer les émotions, la confiance, le courage, l'ouverture aux autres, la bienveillance et d'autres qualités qui caractérisent l'esprit lorsqu'il est vaste et serein. Dans un premier temps, la pratique de shamatha vise donc à apaiser le tourbillon des pensées. À cette fin, nous aiguiserons notre pouvoir de concentration en prenant comme support quelque chose auquel nous prêtons rarement attention. Le va-et-vient de notre souffle. En temps normal, à moins d'être hors d'haleine à la suite d'un effort, de retenir notre souffle ou de respirer profondément pour remplir nos poumons d'air pur, nous sommes à peine conscients de notre respiration. Pourtant, respirer est presque synonyme d'être en vie. Puisque nous respirons sans cesse, prenons cet acte comme support de concentration. Nous disposerons d'un outil précieux, car toujours disponible, qui servira en outre de point de référence pour juger de notre distraction ou de notre concentration. Cette pratique comporte trois étapes indispensables. Premièrement, tourner l'attention vers un objet choisi, ici la respiration. Deuxièmement, maintenir l'attention sur cet objet. Troisièmement, être pleinement conscient de ce qui le caractérise. Méditation sur le va-et-vient du souffle. Assions-nous, confortablement. Si possible, en adoptant la posture en sept points décrites précédemment, ou tout au moins, en nous tenant bien droit dans une position physique équilibrée. Ici, la pleine conscience consiste à rester continuellement présent à notre souffle, sans l'oublier, ni nous laisser distraire. Respirons, calmement et naturellement. Concentrons toute notre attention sur le souffle qui va et vient. Soyons particulièrement présents à la sensation que crée le passage de l'air dans les narines, à l'endroit où nous le percevons avec le plus d'acuité. Selon le cas, ce sera à l'entrée du nez, ou un peu plus à l'intérieur, ou encore plus haut, dans les sinus. Notons également le moment où le souffle est suspendu, entre l'expiration et l'inspiration suivante. Puis, en inspirant, concentrons-nous à nouveau sur le point où nous sentons l'air passer. Notons de même le moment où la respiration s'arrête une seconde entre cette inspiration et l'expiration qui va suivre. Concentrons-nous de façon identique sur le cycle suivant, et ainsi de suite, respiration après respiration, sans tension aucune, mais sans non plus nous relâcher au point de tomber dans la torpeur. La conscience du souffle doit être limpide et sereine. Le Bouddha, utilisez l'image de l'averse qui dissipe les masses de poussière soulevées par le vent pour laisser place au ciel pur et lumineux. La poussière représente l'agitation et la confusion mentale. L'averse bienfaisante, la concentration sur le souffle, et l'air pur, le calme et la clarté intérieure. Ne modifions pas intentionnellement le rythme de notre respiration. Notre souffle se ralentira sans doute un peu, mais cela doit se faire naturellement. Que notre respiration soit longue ou courte, soyons simplement conscients du fait qu'elle est longue ou courte. Tôt ou tard, nous tomberons soit dans la distraction, accompagnée d'une prolifération des pensées, soit dans un état vague de semi-somnolence, soit encore dans une combinaison des deux. C'est-à-dire un état confus, traversé par des suites de pensées erratiques. C'est là que la vigilance doit intervenir. Dès que nous nous rendons compte que notre concentration s'est perdue, reprenons-la simplement, sans surenchérir par du regret ou de la culpabilité. Retournons simplement au souffle, comme le papillon qui revient sur une fleur après avoir volé à droite et à gauche, sans raison apparente. Lorsque des pensées surgissent, n'essayons pas de les arrêter, ce qui n'est d'ailleurs pas possible, puisqu'elles sont déjà présentes. Évitons simplement de les alimenter. Laissons-les traverser le champ de notre conscience, comme l'oiseau passe dans le ciel sans laisser de traces. Parfois, nous pourrons aussi, pendant quelques instants, choisir la distraction elle-même comme objet de concentration. Puis, dès que notre esprit est de nouveau attentif, nous redirigerons notre attention sur la respiration. Si d'autres sensations physiques surviennent, par exemple une douleur due au fait d'être resté longtemps assis dans la même position, n'en soyons pas irrités. Ne la laissons pas non plus nous submerger. Incluons-la dans la pleine conscience, puis revenons à l'observation du souffle. Si la douleur s'avive au point de perturber la méditation, il est préférable de se détendre un moment, ou encore de pratiquer quelque temps la marche consciente, puis de reprendre la méditation sur le souffle, avec un esprit dispos et une concentration plus vive.